L'enseignement de ce matin, ou plutôt l'exhortation de ce matin, c'est le lancement vers votre vie, avec, on n'en doute pas, ce renouvellement de l'amour de Dieu qui fait que sur votre visage et dans votre vie quotidienne, les gens se retourneront et diront « Waouh, eux, ils ont un truc ». Alors, c'est Vincent et Christine qui vont nous parler. Alors, Vincent et Christine, vous êtes à la communauté depuis quand? À chaque fois, j'oublie. Voilà. Donc, c'est des jeunes communautaires, 33 et 20, 25. 25, ah oui, donc c'est un jeune communautaire, 5 enfants. Voilà, ils sont du diocèse de Digne, où ils s'occupent de la pastorale des plus. Voilà. Super présentation. Vous pouvez vous reporter au super livret. Voilà, et je vais leur laisser la parole. Le thème de leur en mission, hop, hop, hop. Et tout est dans le hop, hop, hop.
Alors, hop, 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 vous l'écrivez comme vous voulez. Vous pouvez mettre un E à la fin ou pas. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si c'est comme vous, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, j'espère que les idées seront suffisamment claires. Voilà. Et j'espère que la louange aura suffi à nous réveiller. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on prenne un micro de l'autre côté? Ou un sans fil? Ou un, je ne sais pas. Parce que, en fait, j'ai besoin de regarder là-bas. Non, c'est pas terrible tout ça. Ou alors je me mets là et je regarde là-bas. Oui, ça va marcher. Ok. Donc, alors il a dit témoin de l'amour de Dieu. Nous, alors moi j'avais compris tous en mission. Vincent avait compris missionnaire d'espérance. Écoutez, hein, on va mêler tout ça. Voilà. Alors. Donc moi j'ai ces derniers temps j'ai eu une grâce particulière. J'ai vécu mon mois de mai et mon mois de juin et ça a débordé sur début juillet avec quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Pardon, ça va aller. J'ai vécu mon mois de mai et juin avec Tom Cruise. Ah là là, qu'est-ce qu'elle nous sort là? Non, je ne l'ai pas fréquenté personnellement. Non, mais il m'est arrivé un truc rigolo. C'était une période un peu. Les deux dernières années pour nous ont été un peu compliquées et le mois de mai et juin a été un peu compliqué. Et puis, il s'est trouvé que, y a eu le dernier Mission Impossible qui est sorti. Qui a vu le dernier Mission Impossible? Personne. Il n'y a pas de fan de Tom Cruise ici. Ah, quand même. Ah, quand même. Voilà. Alors, voilà. Et puis là-dessus, je vois que Fabrice Hadjadj sort un livre sur Tom Cruise et sa Mission Impossible. Tiens. Que se passe-t-il? Je suis pas la seule à être fan de Tom Cruise. Peut-être je vais un peu moins me culpabiliser d'être fan des films de Tom Cruise. Tu peux répéter, ouais.
Même s'il est moins bien que moi. Voilà.
Il est plus vieux. Alors bon. Bref. Et puis, donc, je commence à écouter des émissions radio, là, de Fabrice Hadjadj sur Tom Cruise, Mission Impossible, tout ça. Bon. Là-dessus, on me demande une animation de mariage et pour l'entrée du mariage, on me demande de jouer un morceau, on m'envoie la partition. Est-ce que vous pouvez jouer ça? Je regarde la musique de Top Gun. Ah là, je me dis, ok. Alors, c'était un mélange entre le canon de Pachelbel, ensuite on passait à Top Gun, après on mêlait un peu les deux, tout ça.
Parce que les mariés sont des pilotes, tous les deux.
Voilà, enfin bon. Et donc, tout le mois de mai, juin, j'ai travaillé la musique de Top Gun, vous voyez, c'est... Bon, et donc j'arrive à ce mariage, et c'était un prêtre versaillais qui était venu jusqu'à chez nous, voilà, ça arrive. Et là, il me dit, ah oui, ça a beaucoup de sens, puis Tom Cruise, c'est un super acteur, et puis il était à fond, le prêtre de Versailles, je dis, ok. Et puis... J'amène ma fille à son oral du bac. Là, j'avais 2 heures à tuer à Aix-en-Provence. Je rentre dans la librairie chrétienne d'Aix-en-Provence. Il y avait le livre de Fabrice Hadjadj sur Tom Cruise. Mais je l'ai acheté et je l'ai lu. Ok. Et en fait, ça m'a permis de faire un pas de côté par rapport à des choses un peu compliquées qu'on vivait à ce moment-là. On s'est fait un programme de films. On est en train de se regarder tous les films avec Tom Cruise, sauf les films d'anticipation, parce que j'ai un peu de mal quand même. Voilà. Et bon, c'était rigolo. Mais tout ça pour vous dire Si, alors vous, si vous aimez pas ni Tom Cruise ni le style de Fabrice Hadjadj, abstenez-vous sur le bouquin, hein, voilà. Mais une des choses qui fait remarquer Fabrice Hadjadj dans son livre, c'est que comment on dit Mission Impossible en anglais ? Eh non, on dit pas Mission Impossible, on dit Impossible Mission. Ah, quel accent, ça va ? Bon, Impossible Parfait. Mission. Donc la traduction de Mission Impossible, c'est pas Mission Impossible. Si, en fait, pourquoi c'est Mission Impossible ? Parce que c'est mission, deux points, impossible. Le vrai, le titre des missions impossibles, en fait, c'est mission, deux points, impossible. C'est pas la mission qui est impossible, c'est l'impossible qui est la mission. On est mal barré, hein, vous êtes d'accord, hein. Ah là là, c'est comme, il y en a qui disent, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Voilà, bon, c'est vrai aussi. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce... Parce que réellement, c'est l'impossible qui est la mission. Et on est tous appelés à un impossible. Et là-dessus, je sais pas si c'est vous comme moi, mais comment faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je fais un petit pas de côté. Il y a un personnage dans l'évangile qui vient voir Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un en particulier. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui vient voir Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Bravo ! Du premier coup, 20 sur 20. Le jeune homme riche. Alors, deuxième diapo. Deuxième diapo. C'est quoi ça ? C'était la troisième. Oh là là, on n'y voit rien. C'est fantastique. Vous y voyez, vous ?
On pourrait peut-être éteindre la lumière, non ? Histoire que ceux qui veulent terminer leur nuit puissent...
Ah là 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 là, mais vraiment, on n'y voit rien. Hein.
Merci, Michel. Ah, mais oui, pas, le cœur aussi, le cœur.
Ben, c'est la lumière de dehors. Alors, j'y vois à peu près d'ici, moi. Donc, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit... « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors, je ne sais pas si c'est vous comme moi. Moi, pendant quelques années, les homélies sur le jeune homme riche, pour être poli, me pompaient l'air. C'était souvent super culpabilisant. « Ah, il n'a pas voulu tout donner, alors il est reparti tout triste. » Hein, vraiment, c'est pas bien, hein. Il faut vouloir tout donner. Bon, parce que j'exagère, mais vraiment, il y avait un moment où je n'y arrivais plus. Et un jour, je prends ce texte. Donc là, c'est chez Saint Matthieu, hein, il y a plusieurs versions. Et ça m'apparaît, donc là, je suis désolée, la diapo est pas assez visible. Mais ceux qui ont des bons yeux, est-ce que vous voyez que j'ai mis les deux verbes en gras ? C'est quoi les deux verbes ? Que dois-je ? Faire pour avoir. Et est-ce que souvent, on n'est pas nous aussi avec ces questions, que dois-je faire pour avoir ? Peut-être même avoir la paix, avoir une vie plus cool, plus tranquille. Mais que dois-je faire pour avoir ? Et Jésus, quand il répond, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui... Et bon, donc il y a trois fois le verbe être, et ensuite il dit si tu veux, c'est quoi le verbe ? Entrer dans la vie. C'est pas si tu veux avoir, c'est si tu veux entrer. Et du coup, on sent bien qu'on change de niveau. On n'est plus dans faire pour avoir, mais on est dans être pour entrer. Voilà, c'est plus du même ordre. Et peut-être que nous aussi, au moment de partir, avec nos questions, qu'est-ce que je dois faire pour être missionnaire ? Eh ben, le Seigneur nous interpelle en disant, voilà, qui es-tu appelé à être ? Dans quelle qualité d'être tu veux entrer ? Dans quelle vie du royaume tu veux entrer pour y faire entrer d'autres ? Et d'ailleurs, si on regarde la suite, j'ai pas mis tout le texte, heureusement, parce qu'on aurait encore moins vu. Donc, on voit que le jeune homme est tout triste, il a pas, t- il a, il a, voilà, il accepte pas, en tout cas tout de suite, de faire ce que Jésus lui demande, parce que Jésus finalement il se met à son niveau, il dit tu veux faire un truc, allez ok je te propose de faire un truc, tant qu'à faire. Bon, et mais est-ce que quelque part, et là j'étais rassurée parce que notre évêque en prêchant sur cet évangile là cette fois-ci, j'étais pas en... voilà, il s'était exactement le même style d'interprétation. Il dit mais Jésus, il lui propose de tout donner, mais en fait en faisant ça, il se met à son niveau, mais il sait très bien que ça va le mettre en échec. Et quelque part, c'est peut-être le premier échec de sa vie, parce que jusque-là, il a tout bien réussi, il a tout bien fait bien comme il faut, et là, il va se retrouver en échec, et cet échec, d'une certaine façon, peut-être, va lui permettre de se mettre en contact avec son être et de commencer un chemin nouveau. Voyez, tant que la façade est bien lisse, tant que tout est bien comme il faut, qu'on est carré, qu'on arrive à tout bien faire, qu'on arrive à aller bien comme il faut à la messe le dimanche, même si on se dispute avant de partir, que on se dit ça va, on est ok, on est clean. Mais est-ce qu'on est en contact avec l'être profond et avec ce que Dieu nous invite vraiment à vivre? Je dirais un tout petit mot sur la messe du dimanche, je vais essayer de... Bon, au passage. Et voilà, et il se retrouve dans une mission impossible. Et quelques chapitres plus loin, je sais plus si c'est chez Matthieu ou chez Marc, pardon, ça j'ai pas pris le temps de vérifier, il y a le personnage de Zachée. Vous connaissez aussi. Est-ce que Zachée, il vend tous ses biens pour suivre Jésus? Ils vont quoi? La moitié. Est-ce que Jésus lui dit, c'est pas bien, t'as pas tout vendu, il fallait tout vendre? Non. D'accord? Il a vendu la moitié et c'est OK. Il a aussi remboursé, enfin, ce qu'il avait excroqué. Voilà. Donc. Et Jésus dit à propos de Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc, vous comprenez bien, c'est pas de cet ordre-là, c'est pas vendre tout ou vendre, enfin, à un moment, c'est se déterminer pour suivre Jésus. Et voilà, Zachée, il a vendu la moitié et c'est OK. Et donc, après, Jésus donc dit, combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Donc, de pas se situer dans le faire et dans l'avoir, mais dans une autre dimension. Pour les hommes, c'est impossible, mais qu'est-ce qu'il y a écrit exactement? Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Voilà.
Entre
parenthèses. Alors, il y a ce mot pour, quand on regarde le grec, c'est pas vraiment le mot pour, c'est auprès de. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Nous, on peut avoir l'impression qu'on est là. Ben, pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Donc, on attend que Dieu le fasse. Mais pourquoi pas, hein? Forcément, pour lui, tout est possible. Okay? Mais si c'est auprès d'eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nous qui nous plaçons dans la proximité de Dieu. Nous plaçons dans la proximité de Dieu. Et là, l'impossible devient possible. Et c'est vraiment l'image aussi qui est chez le prophète Jérémie, pareil, pardon, j'ai pas recherché les références, l'arbre qui est planté près du ruisseau. Hein, je vous invite à reprendre ce texte, c'est aussi la même image qui est utilisée dans le psaume 1. Hein, celui qui est planté près du ruisseau porte du fruit 12 fois par an. Est-ce que c'est possible de porter du fruit 12 fois par an? Non, pour un arbre, c'est pas possible. Mais si je suis plantée dans cette proximité du Seigneur, si mes racines s'enfoncent de plus en plus dans sa présence, et donc que je développe aussi une qualité d'être en étant en sa présence, eh ben je peux porter du fruit 12 fois par an. Et rentrer dans cet impossible de ma mission à laquelle le Seigneur m'appelle. Donc, et en plus dans le texte, il dit, et son feuillage jamais ne flétrit. Enfin, vous pourrez le reprendre, ce texte, il est magnifique. Et donc là, on retrouve ce que dit le pape François, et qui évoque d'ailleurs Fabrice Hadjadj au début de son livre, c'est pas « j'ai une mission », c'est « je ». Vous connaissez ce passage du pape François ?« Je suis une mission ». C'est le pape François qui le dit. Hein. Et donc, c'est dans quel texte, Vincent, et de moi ?
C'est dans « Gaudete exultate ». Donc, c'est un texte, quoi. C'est une exhortation, c'est pas une encyclique, c'est une lettre du pape François sur la sainteté, sur l'appel à la sainteté. Voilà.
Voilà. Et donc, l'enjeu, au moment où on se pose la question de notre retour, de qu'est-ce qu'on va faire pour être missionnaire, eh ben, c'est petit à petit de rentrer de plus en plus dans notre être missionnaire. Voilà. Et ça passe. Bon, ça rejoint un peu aussi le topo qu'on avait fait l'année dernière, mais discerner quels sont... Tu peux mettre la diapo suivante maintenant, où on ne voit toujours rien. Alors, en fait, je vais vous dire un secret. En fait, j'ai la cataracte à l'œil droit. C'est vrai. J'ai 51 ans et j'ai la cataracte. Donc, je vais me faire... Donc, j'y vois rien de loin. Alors, c'est important donc de discerner notre appel spécifique. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé à le faire, mais c'est, je veux dire, c'est toujours à remettre sur l'établi. Et quel est ce fardeau missionnaire que Dieu me donne? Peut-être un petit brin de témoignage. Quand on s'est rencontré avec Vincent, qu'on a commencé à cheminer ensemble, pour nous, il y a eu une pierre qui s'est posée dès le début, c'était on veut être missionnaire en couple. Alors, j'étais très touchée hier de voir Christian et Babette prêcher aux vêtres ensemble. C'était la première fois que je voyais à la communauté un couple prêcher ensemble à l'office de vêtres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'à l'époque c'était assez nouveau à la communauté des Béatitudes d'envisager comme ça une mission de couple. Et nous avons été accueillis dans notre diocèse. Donc, ça fait 17 ans maintenant qu'on a une mission diocésaine. C'est des missions normalement de 3 ans renouvelables. On en est à 17. Et des fois, je me dis, c'est pas possible que ça ait duré 17 ans. Il y a un truc qui m'échappe. C'est pas grave. Et se comporter dès le début, c'était les jeunes et la liturgie. Les jeunes et la liturgie. Et on a cheminé, on a discerné, et à la communauté, c'est assez vite ce qu'on a fait, et c'est un parcours d'obstacles, je le redis, c'est un vrai parcours d'obstacles, d'entrer dans sa mission spécifique. C'est pas parce que c'est notre mission spécifique que c'est un tapis rouge qui se déroule avec des roses qui tombent de tous les côtés, d'accord? Non, et j'allais dire, plus c'est notre mission parfois, plus c'est un parcours d'obstacles. Mais c'est une aventure, c'est parfois un thriller, mais la fin, on sait que c'est Jésus qui est vainqueur. Mais heureusement, au milieu de tout ça, il y a des joies, il y a des victoires, il y a plein de belles choses. Et donc, petit à petit, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on avait posé au début, c'est mis en place. Et aujourd'hui, pour compléter la présentation, nous sommes responsables de la liturgie pour notre diocèse. Eh ben ça, c'est un truc de dingue. C'est des laïcs de la communauté des Béatitudes responsables de la liturgie dans un diocèse. Et voilà. Et on s'occupe de groupes d'aumônerie aussi pour notre paroisse. Et on a ces deux aspects de notre mission qu'on peut pleinement déployer avec toute la confiance de notre évêque. Donc voilà. Mais nous, c'était ça notre fardeau. Vous voyez, à un moment, on peut pas s'attaquer à tous les domaines missionnaires. Une seule personne ne peut pas s'occuper de tous les domaines missionnaires. Donc, quel est mon fardeau? Quel est le lieu où c'est dans mes entrailles? Je dis souvent, moi, les jeunes, j'avais pas envie de m'en occuper. Les ados, là, ça pompe l'air, les ados, hein. Voilà. Eh ben, je me suis fait avoir parce que je les avais dans les entrailles. Mais au début, je peux vous dire, il a fallu que mon responsable, tu vas passer le BAFA, tu vas t'occuper des camps de jeunes. Non, je veux pas. Bon. Alors que la musique, c'était l'inverse, il fallait un peu me retenir. Bon, et finalement, j'aime les deux. Comme quoi. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Oui. Donc, discerner quel est ce lieu où vous dites, mais là, il faut, dans ce domaine, il faut absolument que ça change. dans ce, là, ça peut pas rester comme ça. Là, ces personnes qui connaissent pas Jésus, c'est pas possible qu'elles le connaissent pas. Il faut faire quelque chose pour elles. Et le Seigneur, il nous interpelle par ces espèces de désirs profonds qui se transforment en cris, vous voyez. Et récemment, il y a une femme qui me disait, oh, ben, avec mon mari, on a tous les deux dans le cœur de s'occuper des pauvres, mais bon, je sais pas. Attends, tu l'as dans le cœur? Ton mari elle l'a dans le cœur? Alors déjà, si vous l'avez tous les deux dans le cœur, il faut peut-être un peu écouter, parce que, je sais pas vous, enfin, on le disait aussi hier dans le carrefour, hein, vous êtes toujours d'accord avec votre mari, votre femme? Alors nous, franchement, quand on est d'accord sur un truc, en général, c'est qu'il y a peut-être un appel du Seigneur. Hein. Voilà. Donc si tous les deux vous sentez un appel pour un service particulier, écoutez-le jusqu'au bout. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et on n'est pas appelé à avoir des vies chrétiennes pépères, à faire tout bien. Et pour revenir à la messe du dimanche, au passage. Alors nous, la messe du dimanche, ça a été la cata pendant des années. Et surtout que parfois on animait, et alors c'est le stress, on engueule les enfants, on s'engueule, on revient pour le repas, il y a rien qui est fait, tout est en bazar, et ça fait des dimanches, ah, au secours. Et puis, au bout de quelques années, on nous a confié l'animation de la messe du samedi soir. Oh, mais quelle libération! Donc on arrivait tranquille, les enfants étaient, voilà, ça. Et le dimanche matin, ça nous permettait de vivre quelque chose plus en famille, de prendre du temps l'un avec l'autre, pourquoi pas de préparer le repas ensemble, et que ce dimanche soit un vrai jour de fête. Et bon, j'ai fait des études de liturgie là ces deux dernières années. Il y avait un prêtre du chemin néo-catéchuménal et il me disait, nous dans le chemin ils ont toujours la messe le samedi soir. Hein, puisque la résurrection commence, comme on l'a vécu hier, dès le samedi soir. Et le dimanche matin, ils font des lots en famille et ils font un jour de fête vraiment en famille. Alors, je suis pas en train de dire de plus aller à la messe le dimanche, hein, ok? D'accord? Ça va? Mais parfois, dans nos étapes de vie familiale, on peut, pourquoi pas, faire le choix pour plus de paix, pour un... Voilà. Et pour entrer dans notre être chrétien avec nos enfants. Parce que si le seul souvenir de nos enfants, la messe du dimanche, c'est notre stress et les engueulades pour partir, mais what, quoi? Est-ce qu'ils vont avoir envie de devenir chrétiens? Voilà. Et à un moment donné, discerner ensemble, dans cette étape de notre vie familiale, qu'est-ce qui va le mieux construire notre être chrétien pour devenir missionnaire? Et plus on est en couple, familialement, plus on rentre dans la joie, dans la paix, et qu'on rayonne de l'amour, comme nous le disait Michel le vendredi, mais c'est ça, notre première mission. Donc, je vais laisser la parole à Vincent, mais voilà, l'importance de discerner notre appel spécifique, notre fardeau. Et parfois, ça va être quelque chose de tout simple. Ça va être déjà d'être une famille unie au milieu de plein de couples qui se séparent. Vous voyez? Des fois, il faut pas chercher très, très loin. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui peuvent se préciser. Et franchement, si vous avez quelque chose dans le cœur, tous les deux, écoutez-le. Et je termine en... Et Vincent va prendre la suite. Je crois que c'est important de mesurer et tout ce chemin qu'on a fait de la transfiguration à la résurrection ces jours-ci. Vous avez remarqué quand même que hier soir, on a mis en œuvre ce que sœur Élisabeth de Jésus a explicité le matin. Elle a dit « Cette montagne, on va la jeter dans la mer, la montagne du Tabor ». Hein? Donc le premier jour, le mercredi soir, on était au Tabor et il y avait le Saint-Sacrement sur la montagne. Et hier soir, il atterrit dans la mer. Hein? Hein? Voilà. Hein? Et en fait, tout ce chemin qu'on a à faire de placer la présence de Dieu au cœur de nos vies. Et cette présence de Dieu, elle est là pour améliorer notre vie. L'Évangile ne nous appelle pas à une amélioration. L'Évangile nous appelle à une transformation. Et Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas revenu à son état d'avant, un peu augmenté, vous voyez. Nous ne sommes pas des chrétiens augmentés. Mais et cette transformation, c'est de cette transformation que nous sommes appelés à être témoins. Voyez, une transformation très profonde. La chenille n'est pas appelée à devenir une grosse chenille. C'est peut-être son rêve profond, mais franchement, ça serait très moche. Et je ne sais pas si on sortirait beaucoup si on était entouré de grosses chenilles. La chenille est appelée à devenir un. Et oui, et notre vie chrétienne nous invite vraiment à passer de transformation en transformation et à se laisser renouveler très profondément. Et c'est ça aussi qui va construire notre être missionnaire.
Donc en termes de transformation, ici nous avons une icône de la résurrection, alors que les orthodoxes appelleraient davantage icône de la descente aux enfers, puisque c'est le moment où Jésus... dans toute sa puissance divine, va aux enfers faire sortir de leur tombeau Adam, hein, à notre gauche, et Ève à droite. Et voyez qu'il a décidé, il les prend par le poignet. C'est-à-dire, en gros, il leur donne pas le choix. C'est un peu, vous savez, comme des enfants à qui on va faire traverser la route. Au début, on leur dit « donne-moi la main », puis quand on est vraiment pressé, on les attrape par le poignet. Nous, on marche vite. Eux, ils essaient de toucher terre. D'accord? Donc voilà. C'est important. Jésus a vécu, tout Dieu qu'il est, a vécu dans sa chair humaine, une transformation. Une transformation. Et c'est important pour nous de savoir que Jésus, il fait pas ça juste pour le fun et pour lui et regardez comme je suis beau, quoi. Il fait ça parce qu'il veut nous le donner. Voilà. Et donc, c'est important. Vous savez que, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà. Une photo banale, un lever de soleil. Bon. C'est pas la plus jolie photo des levers de soleil d'ailleurs. Mais peu importe. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des gens qui savent que le soleil va se lever. Même si nous sommes encore parfois dans la nuit ou dans cette sorte d'entre-deux, vous savez que cette sorte d'entre-deux entre la nuit et le jour donne des couleurs, d'accord, parmi lesquelles le violet et le rose qui sont devenus des couleurs liturgiques. Spécialement, le temps de l'Avent est un temps dans lequel nous attendons l'avènement du Seigneur. Et cette couleur entre jour et nuit n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous dire, nous veillons, mais nous ne veillons pas en vain. Nous savons que le soleil va se lever. Est-ce que tu veux bien? Ça, c'est une règle universelle. Donc, sachant que le soleil va se lever, nous contemplons déjà la résurrection du Christ comme étant la promesse de notre propre résurrection. Et ce qui est une vérité humaine, même humaine universelle, l'homme se transforme toujours en ce qu'il contemple. Voilà. Donc, que contemplons-nous ? Ça peut être une question qui peut nous interpeller au niveau moral, mais beaucoup plus profondément au niveau spirituel. J'attire vraiment votre attention sur cette réalité de foi. Il ne s'agit pas de dire que parce que c'est une réalité de foi, c'est quelque chose de tout à fait symbolique pour aider à vivre pour aider les mortels à vivre. Voilà. Frères et sœurs, regardez-vous bien. Vous allez tous vous revoir. Peut-être pas à Nouan, mais préparez-vous. Vous allez tous vous revoir et vous allez tous vous revoir en mieux. Transformés, parce que c'est la promesse de Dieu. Il y a une réalité du royaume qui affleure notre terre, qui affleure notre réalité. Je pourrais vous faire tout un tas de métaphores. Bon, les ondes existent, pourtant on les voit pas, mais on en voit les effets. Mais lorsque nous rapprochons, lorsque nous entrons chacun dans le royaume de Dieu, nous provoquons une sorte de réaction dans laquelle le royaume se rapproche Et qu'est-ce qui se passe lorsque le royaume se rapproche, on pourrait dire presque lorsqu'il naît au milieu de nous? Eh bien, il y a des miracles, il y a des transformations de vie, il y a des solutions dans des situations totalement pourries, il y a des guérisons, il y a des miracles au sens premier du terme, il y a tout ce que vous voulez, voilà. Il y a la vie avec un grand V, et c'est de ça que nous sommes témoins, c'est pour ça que nous partons en mission, parce que nous savons que Jésus-Christ ressuscité est, comme je l'ai lu dans la parole tout à l'heure, le premier-né d'une multitude de frères. Donc dans la première épître de Jean, bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables à Dieu. Hein. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance, donc l'espérance c'est ce qui nous tire vers l'avant, seront purs comme lui-même est pur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on part en mission. Voilà. On n'est pas là, on n'est pas des missionnés du marketing de l'Église. Voilà. Nous partons en mission parce qu'il y a une réalité mais qui est tellement forte, tellement importante. Et vous savez, cette réalité, un jour, de notre vivant, de notre mort, après notre mort, on ne sait pas. Ça nous appartient pas. Mais on sait qu'un jour, cette réalité va submerger et envahir toute chose, toute la réalité de l'univers entier. Je ne vous dis pas, peut-être que je peux vous paraître fou, mais c'est une folie chrétienne. Si vous me faites enfermer, faites-moi enfermer dans un secteur chrétien, s'il vous plaît. Voilà, merci. D'accord ? C'est la réalité. Et d'ailleurs, nous savons, après une multitude de saints, et après avoir été peut-être les uns et les autres témoins de l'action de Dieu dans la vie des gens, nous savons que tout ça, c'est le symptôme d'une réalité immense. Voilà. Et que nous célébrons dans les sacrements et de façon éminente dans l'Eucharistie que nous allons vivre tout à l'heure. Voilà. Donc, comment être missionnaire de cette réalité? Alors, pardon, vous allez peut-être penser que je vais retomber au bas des pâquerettes. La première chose dont nous témoignons et dont nous rayonnons, c'est de ce que nous sommes. Et ça, je tiens à faire, nous tenons à faire un tout petit rappel sur cette chose-là, l'estime de soi. Parce que, personnellement, au cours d'une multitude d'homélies et d'enseignements que j'ai entendus, je pense qu'il y en a un sur 100 qui traitait de cette chose tellement importante. Le déclic dans ma tête a été opéré il y a 10 ans par un pasteur qui prêchait dans l'unité des chrétiens et qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu m'aimes comme tu t'aimes, je préférerais que tu m'aimes pas. » Waouh. Pense ça dans la tête, ok. Mais on savait que ce pasteur était quelqu'un de vraiment qui aime les gens, d'accord. Donc, je suis la première personne à aimer juste après Dieu. Le saviez-vous? Pas moi, hein. Enfin, je veux dire chacun. D'accord? Aimer le prochain, voilà. J'allais dire, on se prend la tête dessus et quelque part, on a un peu raison. Faut pas trop se prendre la tête, je pensais. Dieu vient aimer à travers nous, voilà. Entrons dans le royaume. Comme dit Saint Séraphim, acquiert la paix. Et des milliers autour de toi trouveront le salut. Donc, rentre dans le royaume et des milliers autour de toi y auront accès. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Dans notre vie de famille, est-ce que vous avez, comme on peut avoir, comme je peux avoir, le symptôme de l'épuisement perpétuel? Alors, comment ça va? Ça va, Vincent?
Ouais.
Submergé, overbooké, comme toujours.
Bah non, enfin,
oui, faut que je fasse attention. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que j'ai une activité physique régulière? Est-ce que je prends des temps de repos, et de temps de ressourcement, des temps de convivialité gratuit avec mes amis, des temps de prière paisible? Je prends un risque en me disant attention, les outils du coaching, il est de bon ton dans certains types d'enseignement de casser coaching et développement personnel. De quoi parle-t-on ? Nous parlons d'outils. Si le coaching ou le développement personnel devient une nouvelle religion, ça c'est embêtant, on est d'accord. Parce que dans cette religion-là, jamais je n'ai lu dans les bouquins que j'ai parcourus que Jésus nous sauve. Mais il y a une multitude d'outils, de bons outils à saisir. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui doivent gérer des gros projets ne s'en privent pas. Donc essayons d'être un peu sages, comme dit Saint Paul aux Thessaloniciens, hein, discernez la valeur de toutes les choses, ce qui est bien, gardez-le. Je pense que c'est important. Il faut qu'on soit des chrétiens intelligents. Pardon pour la provoque. D'accord? C'est facile de dire aux gens, ouais, vous avez le développement personnel, nous on a Jésus. Oh, je suis désolé, c'est pas aussi simple. C'est comme si on se baladait, voilà, au milieu des gens. Vous mangez, nous on mange pas. Non, c'est pas possible. Vous dormez, nous on dort pas. Il y a des tas d'outils qui servent à grandir dans une juste estime de soi. En tout cas, voilà. Ou si quelqu'un face à vous fait de la fausse humilité, vous pouvez l'aider à rentrer dans une vraie humilité. Si quelqu'un vous dit, oui, c'est vrai, je n'en suis pas digne, vous lui dites, bah oui, c'est vrai, t'en es pas digne. Alors, là, il va changer. Ah, vous savez, comme Gad Elmaleh. Ah, des fleurs, fallait pas. Oui, t'as raison. Et hop. D'accord? Non, voilà. Essayons d'être un peu. Et ce problème d'estime de soi a des impacts considérables dans tous les domaines. Tous les domaines. Notre capacité à accepter des responsabilités, notre capacité à vivre des moments d'intimité, à vivre des moments de joie partagés, etc., etc. Donc, demandez au Seigneur de faire grandir votre intimité, votre estime de soi, pardon, et votre intimité avec lui, de fait. C'est la source de toute chose. Voilà. Alors, là, c'est intéressant. Cette image-là est destinée au commerce. D'accord? Vous voyez, le problème, les choses sont parfois un peu biaisées par le côté marketing. Mais je l'ai prise quand même, cette photo. Si moi qui suis un petit chat, je me regarde dans la glace, je vois pas un lion. Hein. Moi, je vois un petit chat. Par contre, je sais qu'à l'intérieur, il y a un lion. Voilà.
Bon, c'est Jésus, le lion, au fond, hein, à la fin.
Oui. Mais c'est Jésus en moi. Alors, comment témoigner ? Je suis prof à Marseille. À Marseille, le vendredi, vous avez un paquet de gens dans les rues qui sont super bien nippés. Ce paquet de gens, ce sont les musulmans pour qui le vendredi, c'est le jour saint. D'accord? Et ils s'habillent dans leur culture comme des princes. Et je me dis, ben, ils ont bien raison. Et j'aimerais bien que moi, qui suis fils de Dieu, ben ouais, désolé. D'accord? Moi qui suis fils de Dieu, que de temps en temps je puisse manifester ça, eh ben, ça ferait rudement du bien. Vous pouvez très bien choisir de vous faire beau. Alors ça peut être le dimanche, bien sûr, pour la messe, ou le samedi soir.
Ou pour Shabbat, comme on l'a vécu.
Ou pour Shabbat, comme on l'a vécu à la communauté. Vous savez qu'à la communauté, on aime beaucoup se faire beau et faire la fête. Voilà. Nous sommes de grands fêtards. Le Shabbat, la résurrection, la fête de machin, l'anniversaire de truc, les solennités, les fêtes liturgiques.
Même d'où si l'expression c'est pas... credo apéro.
Voilà, d'où l'expression credo apéro. Voilà, d'accord. C'est-à-dire quoi ? Parce que c'est pour les solennités qu'on dit le credo. Et donc, dès qu'il y a une solennité, apéro. Voilà. Mais c'est normal. Vous savez que dans la pédagogie ignatienne, pour encadrer les jeunes, la fête a une place très importante. Voilà. Fêtons. Et mis à part le bien que ça peut nous faire, ça va attirer d'autres personnes. Ah, vous faites la fête? Moi aussi, je suis très fête. Vous fêtez quoi? Voilà. Et là. Donc ça, voilà. Alors, quelque chose qui aide à tenir. Ça, c'est la photo d'un confessionnal en Argentine. Vous avez le prêtre au milieu qui parle avec le pénitent et il y a une espèce de petite porte là pour le contact avec le pénitent qui est ouverte, ce qui fait qu'on voit pas ce que dit le prêtre dit. Moi, je trouve ça très beau parce qu'il y a, on voit ce qui se passe, mais à la fois il y a de la pudeur. Donc déterrer les racines amères, c'est à ça que sert la confession. La confession ne sert pas, je vais vous choquer, mais la confession ne sert pas fondamentalement à ce que nous soyons, nous pauvres humains, purs et sans péché pendant 10 secondes. La confession est une thérapie à très très long terme, parce que posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai encore recommencé? C'est une thérapie à très long terme qui va venir fouiller d'une façon extrêmement respectueuse et intime ce qui fait qu'il y a en nous ce qu'on appelle des racines amères. Et des racines amères, ça donne des fruits amers. Voilà. Et nous avons besoin de cette divine chirurgie. Voilà. Avec des prêtres qui sont des hommes qui... Ça peut arriver de tomber sur des gens pas en place. Je le dis parce qu'une fois, j'étais vraiment, vraiment choqué. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit à mon curé, il m'a dit, vous auriez dû tout de suite avertir l'évêque ou les chapelains. Voilà. Et malheureusement, il y a quelques prêtres qui sont pas en place, quoi. Qui vont vous dégoûter. Voilà. D'accord? Mais la plupart du temps, les prêtres, et d'ailleurs, plus ils sont vieux, mieux c'est, parce que, voilà, toute illusion est partie. D'accord, sont pour nous des puits de miséricorde pour transmettre la miséricorde de Dieu. D'accord, l'Église conseille une fois par mois et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je vous le dis perso, j'y arrive pas, mais c'est très bien parce que je vois l'impact que ça a sur ma gestion personnelle. Voilà, une fois par mois, c'est bien et ça permet d'aller déterrer petit à petit les racines amères. Prier en tout temps. Alors, je vous fais pas un dessin. Juste une chose. Je vais vous passer un petit film de 2 minutes. Parce que prier en tout temps, on connaît le concept. Prier sans se décourager, persévérer, on connaît le concept, on connaît le concept. Et j'ai trouvé une petite illustration, peut-être que certains connaissent.
Qu'est-ce qui se passe?
Donc, que se passe-t-il dans cette vidéo? Nous sommes dans un dispensaire au fond de la brousse et une maman vient de mettre un enfant au monde. Et cet enfant ne respire pas. Et donc, il y a une sœur, aide-soignante, et un médecin qui essaie de gérer cet enfant. Je ne sais pas si vous le verrez, si ce sera dans la partie machin qu'on voit là. La durée totale des prises de vue, le réalisateur a participé à l'interview après, a duré 15 minutes. Sur ces 15 minutes, l'enfant est quasiment en arrêt respiratoire et il va faire un arrêt total pendant plus d'une minute et demie. Et 15 minutes, dans ce cadre-là, c'est très très long. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'enfant vient d'ouvrir les yeux. Voilà. Au bout d'un quart d'heure. Voilà. Donc, la prière, c'est ça.
Voilà, c'est une belle image de la persévérance dans la prière.
Il dit, juste après, il se pose la question, mais qu'est-ce que cette infirmière a pu faire juste après ça? Et après, dans une interview, l'infirmière a dit, bah, en fait, c'était au milieu de la nuit, j'étais fatigué, je suis allé me coucher. Cette infirmière qui a vu passer des centaines, voire des milliers de bébés. Est-ce que tous sont arrivés à terme? Est-ce qu'elle a réussi? Statistiquement, on sait que non, d'accord. Mais il y a l'attitude de Dieu envers nous, c'est la même. Et dans la mission, c'est la même que l'attitude de cette infirmière. Si vous avez l'occasion de revoir ce truc, vous tapez clip juste après. Il y a une volonté. Dieu a décidé d'aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui le fait revenir en arrière. Rien, rien, rien. Et nous sommes témoins de ça. Je vous le dis, c'est important parce que on est un peu chevillé cette année au thème de l'espérance et nous pouvons traverser, croiser des situations locales ou globales qui vont attaquer qui vont attaquer notre espérance et qui vont attaquer notre espérance, mais celle aussi des gens. Et nous allons être là pour redonner aux gens, parfois, le goût à la vie. Montrer un horizon lumineux. OK? Bien, sachons que nous avons un bon Dieu qui est comme cette infirmière et qui nous forme pour être comme cette infirmière que, quoi qu'il se passe imperturbablement, on continue. Et ce qui va creuser ça en nous, c'est la prière. C'est la prière dans laquelle, au début, forcément, on commence, on fait des prières. Tu peux passer à celle d'après. On fait des prières. Au début, on commence par faire. Et puis, au fur et à mesure, nous devenons prière. La prière s'empare de nous. Voilà. Et évidemment, chevillé aussi à la prière qui va structurer notre connaissance de Dieu et nous faire rentrer dans son intimité, c'est la fréquentation assidue.
Donc, moi, j'aime bien dire que je suis à moitié protestante parce que mon père était protestant, ma mère catholique, et une partie de mon enfance, on allait un dimanche au culte, un dimanche à la messe. Et du coup, j'étais pétrie aussi de cette fréquentation de la parole de Dieu, j'allais dire à la protestante. Et je suis parfois un peu choquée, un peu interloquée que dans les milieux catholiques, on a tendance, pas vous, hein, mais à se contenter des lectures de la messe du dimanche, dans le meilleur des cas, lecture des messes de tous les jours, mais en fait, on connaît pas la parole. Enfin, on connaît des bouts de la parole, mais on peut pas faire des liens. On peut pas. Il y a quelque chose. Bien sûr, ça nous nourrit quand même. Je dis pas que ça nourrit pas. Je dis pas de pas le faire. Mais est-ce qu'on pourrait pas lire un évangile en entier, en lecture suivie de temps en temps, ou un livre de l'Ancien Testament? Et quand on fait de la lecture suivie, il y a quelque chose qui s'enclenche autrement. Il y a un prêtre récemment qui m'a dit, mais vous savez, je suis quand même un peu choquée, parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont à fond là sur la divine volonté. Alors, je connais très mal, donc je ne veux pas en parler ici. Mais ils ont lu les 17 livres de Louisiana, je ne sais pas comment, les 17 volumes, et ils n'ont jamais lu un évangile en entier. Frères et sœurs, pour être missionnaires, soyons rempli de la parole de Dieu pour en déborder et pour en être rempli. Mais ça peut être 5 minutes tous les jours et on prend l'évangile et puis tac, 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 on lit des petits bouts et puis il y a des choses qui se mettent en lien et je vous assure, ça change beaucoup.
Une culture d'encouragement. Frères et sœurs, moi, je suis très, très touché ces derniers jours lorsque je croise certains d'entre vous qui nous disent merci et qui nous encouragent. Parce que dans l'église, il ne doit pas y avoir de régime star public. Hein, on est tous dans le public, on est tous star, pourquoi pas. Star, ça veut dire étoile, hein. D'accord. Hein, nous sommes appelés à être lumière du monde. Ouais. Donc, culture d'encouragement. Vous voyez Saint Paul aux Colossiens, génial. Moi, je suis colossien, je reçois cette lettre de Paul, je suis boosté pour la journée, d'accord ? Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse, à vous la grâce et la paix de par Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Voilà. Frères et sœurs, quand je vous vois, je rends grâce à Dieu. Et vraiment, je vous encourage et je sais que le Seigneur travaille à travers vous. Voilà. Et qu'il a prévu des choses encore plus grosses à travers vous. Et c'est pas de l'orgueil. Pourquoi Jésus lui-même dit, hein, lorsque je serai élevé, vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même des plus grandes. Tu dis, waouh, c'est quoi le truc là? Le Fils de Dieu dit, tu vas faire les choses plus grandes que moi. Alors, il dit pas toi, 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 dis vous. Ça veut dire que il y a une entraide dans l'église. L'église est le lieu de l'entraide, clairement. S'il y a un lieu de l'entraide dans le monde, s'il doit avoir le dernier lieu ou le premier lieu de l'entraide dans le monde, c'est l'église. Voilà. Alors il s'agit pas de dire ah oui alors si quelqu'un vous en traite pas, non. Soyez demandez au Seigneur, soyez ingénieux, le Seigneur va vous donner des personnes avec qui vous allez pouvoir vous entraider. Voilà. Faire des cercles amis, vous encourager, porter les peines les uns des autres, célébrer les joies les uns des autres. Voilà. Ça c'est tellement tellement précieux. Voilà. Ne soyons pas trop pressés que les gens soient parfaits. Voilà. Comme disait le Père Michel en citant Sainte Thérèse, en disant « Ne nous étonnons pas, ne nous scandalisons pas des défauts de nos frères et sœurs. Voilà. Mais relevons et relevons tout ce qu'ils peuvent faire de bien. » Voilà. Donc la conclusion, Je reboucle un peu sur la résurrection avant de laisser la parole à ma femme. Hein, la résurrection, pourquoi c'est si important de fêter la résurrection? Parce que, on l'a déjà dit, la résurrection du Christ, c'est le germe de notre propre résurrection. Il y a un moment, Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, il y a un grand débat sur la résurrection, parce qu'à Corinthe, il y a des gens qui croient pas à la résurrection des corps. Et ils croient pas à la résurrection du Christ. Ils disent, bon, ton message, il est super, c'est bon, on l'accepte. Bon, la résurrection, c'est quand même un peu limite, hein. Et là, Saint Paul dit, là, à un moment, il s'emballe, hein. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux de tous les hommes. D'accord? Par contre, il dit, voyez, à la fin de tout son développement sur la résurrection, je vous invite à le lire. D'accord? 1 Corinthiens 15. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue.
Et donc, je voudrais terminer en vous donnant deux figures missionnaires, missionnaires d'espérance. La première, c'est Monseigneur de Miolis. Qui c'est celui-là? Évêque du digne de temps de Napoléon et qui a inspiré Victor Hugo pour Monseigneur de Myriel dans Les Misérables. Et Monseigneur Gobillard a ouvert sa cause de béatification. Et en fait, il a vécu une période très sombre. Parfois, on peut se dire notre période est très sombre. Ben, lui, il a traversé la Révolution, la période napoléonienne. Et ben, il a tracé un chemin de lumière au milieu d'une période très sombre. Et ça, c'est toujours possible. Nous disons pas, oh, le monde va mal, et à force de dénoncer que le monde va mal, qu'annonçons-nous? Si on dénonce, par exemple, l'idéologie woke, mais est-ce qu'on annonce la beauté du mariage, la beauté de la différence homme-femme? Voyez. Donc, annonçons plutôt que dénoncer. Donc, Monseigneur de Miolis, je vous invite à aller voir un peu qui c'est, je vous assure, c'est un prophète pour aujourd'hui. Et un film chez Sage, pas de Tom Cruise, c'est qui s'appelle Cabrini. C'est une femme, une religieuse qui a été italienne, qui a été missionnaire aux États-Unis, qui disait qu'elle voulait construire un empire d'espérance. Ben les jours où vous avez pas le moral et vous dites je suis pas capable d'être missionnaire, mon être missionnaire, vous regardez Cabrini ou le dimanche après-midi de pluie, je peux vous dire que vous êtes galvanisé. Elle a dépassé tous les obstacles et c'est un truc de dingue. Et pour le coup, avec elle, on voit que l'impossible est la mission, mais en étant enraciné en Jésus, ça le fait. Voilà, bonne mission et bon développement de votre être missionnaire.